à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guerre des Gamers. On ne les présente plus, hein, vous les connaissez maintenant depuis 3 ans. Vous retrouverez mes fidèles alcooliques, French et Jalma. Comment vous allez aujourd'hui? J'ai dit alcoolique quasiment au lieu d'alcoolique.
Ce qui est juste aussi d'une certaine façon. Hein. Salut à tous.
En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être présenté comme une star. Comme quoi, ça y est, je suis l'étoile filante des podcasts. Hein.
Exactement. Alors, au programme de ce podcast, aujourd'hui, retour sur les dernières actualités du moment, notamment avec les licenciements qui n'en finissent plus. C'est désormais PlayStation, EA et Deck Nine qui sont impactés par une réduction des effectifs. Donc on reviendra sur ces points assez importants. Puis on parlera également du DLC d'Elden Ring qui sortira le 21 juin prochain et les chiffres décevants de vente de Suicide Squad annoncés par Warner Bros. Bon, ce n'était pas une grande surprise, mais on reviendra dessus. Puis nous parlerons de Banishers Ghost of New Eden. Après l'excellent Just Hand, Dontnod revient sur un jeu nous proposant de suivre les aventures de Red et Antea, deux amants qui ont fait le serment de chasser les esprits qui tourmentent les vivants. Pour terminer ce podcast, nous reviendrons sur les duos marquants que l'on retrouve dans les jeux vidéo et que les joueurs ont adoré ou non hein, d'ailleurs. On fera un point dessus, allez vous avez tout, on va tout de suite passer à l'actu mitraillée.
C'est l'heure de l'actu mitraillée.
On commence cette actu mitraillée avec PlayStation qui a donc annoncé se séparer de 8% de ses effectifs mondiaux. Ça fait environ 900 personnes qui vont être impactées. Concrètement, c'est London Studio qui travaillait sur un jeu en coop et des jeux en PSVR 2 qui ferment ses portes, mais aussi des studios comme Naughty Dog, Guerrilla et Insomniac Games qui vont être impactés par ces licenciements. De son côté, Deck Nine a annoncé se séparer de 20% de ses effectifs. EA parle de 5%, soit un peu moins de 700 emplois. French, que penses-tu de cette hécatombe en 2024 hein, puisqu'il n'y a pas une journée sans qu'un studio nous annonce des coupes budgétaires?
Eh bien, j'en pense un peu tout comme toi, que ça ressemble déjà un petit peu comme une année noire. Année noire, pourquoi? Parce qu'on va donner quelques chiffres pour se donner une petite idée, là, tous. En 2022, on a eu 8500 suppressions connues de postes. 8500. En 2023, l'année dernière, on a eu un record, 10500 licenciements recensés. En 2024, là, cette année, alors qu'on est, début mars, en 2 mois... on table déjà sur 7100 licenciements. Donc autant te dire que là, on s'apprête à avoir des licenciements qui vont aller grandissant cette année.
C'est déjà plus de la moitié des chiffres de l'année dernière, en fait. C'est bien alarmant.
Bah exactement. Parce qu'en plus, quand tu écoutes un petit peu le secteur, quand tu écoutes un petit peu les professionnels qui évoquent le sujet dans la presse ou bien sur les réseaux sociaux, tu t'aperçois que pour les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, que visiblement, ce n'est pas terminé. La crise, elle est presque devant. Et alors là, les causes peut-être qu'elles peuvent être multifactorielles. On le sait, durant le Covid, il y a eu énormément d'embauches. Il y a également une explosion des budgets, en particulier dans les AAA. Et il y a aussi des besoins de rentabilité plus forte. Donc du coup, la question que je pose, et que je posais finalement à tout le monde, ceux qui nous écoutent, est-ce que les studios qu'on aime sont en train de rentrer dans le mode survie?
Voilà. Après, je te trouve difficile en disant qu'ils rentrent dans le mode survie. Je pense que juste qu'il y a une transformation du monde du jeu vidéo qu'on a connu, c'est qu'on arrive dans un monde financier ou un monde de rentabilité. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu quand même les chiffres de PlayStation, il faut savoir que le chiffre d'affaires de PlayStation a augmenté de 16% par rapport au troisième trimestre 2022.
Mais ils ont tous... Pourtant, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Ouais. Parce qu'on parle du jeu vidéo, mais c'est la technologie de manière générale. Hein. C'est un secteur en pleine croissance et c'est là où il y a le plus de licenciements en ce moment. Comment on l'explique? Est-ce que tu as raison? C'est le coût financier derrière, parce qu'on le voit. EA, dernièrement, c'est le pire exemple. Il le dit très bien. En fait, il veut se concentrer sur ses licences qui fonctionnent. Moi, je les appelle des licences vache à lait. Ils savent que ça va rapporter. Mais du coup, à quel prix, en fait? À quel prix faire ça?
Ouais, mais à un moment donné, c'est vraiment, je pense que c'est pour faire plaisir aux actionnaires. Le but, c'est de plus en plus rentable. Alors certes, il faut être honnête, les bénéfices de PlayStation ont baissé de 26% par rapport à l'année d'avant, parce qu'il y a eu des offres promotionnelles sur les consoles, etc. Après, moi, je l'avais quand même dit l'année dernière, c'est que le catalogue first party de cette année est inquiétant chez PlayStation en 2024. C'est une des explications de pourquoi ils ont réduit aussi à un moment donné les effectifs. Hein.
Parce qu'ils savent qu'ils vont pas avoir énormément de rentabilité. Ils ont leur carte à l'avenir.
Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que comment tu expliques qu'il y a des licenciements pour réduire les charges sociales quand tu vois qu'en parallèle, Spider-Man 2, c'est le jeu qui c'est le plus vendu en tant que first party en 24 heures de tout ce que PlayStation avait connu. Donc à un moment donné, tu vois qu'ils vendent énormément de gros jeux et de l'autre côté, ils disent mais les gars, les budgets sont plus gros, on est obligé de licencier. C'est complètement paradoxal, quoi. À un moment donné, il va falloir quand même nous expliquer ce qui se passe, hein, je suis désolé.
Mais c'est justement ça qui est très intéressant, Jalma, et sur lequel j'avais envie de rebondir, c'est que peut-être, quand moi j'évoquais le mode survie, c'est pas tant que les studios sont tous à l'agonie, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais simplement te dire que pour préserver les parts de rentabilité, probablement au niveau actionnariat et au niveau au-dessus des studios et des salariés des développeurs eux-mêmes, bah peut-être que, comme il n'y a pas de licence phare, tu prends l'exemple de Sony. Effectivement, Sony, il n'y a pas de truc foufou jusqu'à mars prochain, par exemple, soit en exclu PlayStation. Et ça, c'est quand même effectivement assez étonnant, parce que du coup, comment tu arrives à préserver le même train de vie de l'actionnariat ?
Ah bah ça, je vais te répondre. Bah, tu sais, c'est quoi le train de vie qui est en train de se verser ? C'est qu'il y a une transformation des produits de jeux vidéo. C'est qu'on sait que maintenant, PlayStation va s'orienter de plus en plus vers les jeux-services. Ils ont dit qu'en 2026, il y aurait une dizaine de jeux-services qui va être proposés. Alors tout simplement, pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher à développer et c'est plus rentable sur le long terme. Donc en fait, on va avoir des jeux-services. Ils vont être assurés par ce qui se passe avec Helldivers 2 qui fonctionne très bien. Je rappelle que quand même Helldivers 2, Sony est à l'édition. Donc en plus là, je peux dire que là, il y a de l'argent qui rentre, ils doivent être heureux. Parce qu'en plus, ils ont eu la bonne idée de le sortir en simultané sur PC, sur Steam, le jeu a tout pété. Donc en plus, ça va les conforter d'être dans cette idée-là. Mais moi, à un moment donné, les gars, je me mets quand même à la place des développeurs. Comment là, PlayStation qui annonce une réduction des effectifs, va notamment annoncer à Insomniac Games, qui a développé Spider-Man 2, « Bah les gars, on va être obligé de vous séparer de certains d'entre vous, potentiellement des développeurs ou des gens qui ont gravité autour du jeu, alors que le jeu s'est très très bien vendu et très rapidement. Comment, chez PlayStation, tu peux te justifier auprès des salariés de leur dire ça ? C'est compliqué, moi, je trouve, quand même. Hein. »
Parce qu'en fait, ils vont simplement concentrer, on sait qu'il y a Wolverine en dev, etc. Ils vont se concentrer sur les licences où ils savent qu'il y aura un succès, et le reste, ils vont le mettre de côté. Et moi, c'est une question que je soulève, j'ai peur que ça soit la fin de la créativité, de la diversité, de la prise de risque, en fait, qu'on connaît dans les grands studios, au profit des bénéfices.
Et au-delà de ça, il y a un truc...
Est-ce que c'est la fin d'une ère pour les AAA comme on les connaît ? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui.
Ouais, mais moi, en plus, je rebondis sur l'histoire de la créativité, parce qu'à partir du moment donné où tu rentres dans des phases de licenciement, et c'est bien connu, notamment en entreprise, avec ce qu'on appelle les plans de départ volontaires qui existent, notamment qui avaient eu lieu chez Air France à l'époque. Par exemple, s'ils mettent en place un plan de départ volontaire, parce qu'on ne sait pas comment ça va être mis en œuvre, ces licenciements-là, bah, tu ne sais pas qui part, donc tu peux perdre des talents. Donc ce que tu disais, ce que tu mettais en avant, c'est que tu pourrais peut-être avoir une perte de créativité parce que tu risques de perdre des talents aussi. Ou tu risques de licencier malgré toi. Parce que c'est pas parce qu'un mec vient dans une entreprise et qu'il a peu d'expérience, par exemple, quelqu'un qui arrive, qui a moins de 6 mois d'ancienneté, tu vois, ça va être le premier normalement qui va être dans les licenciements. Souvent c'est comme ça. Bah, malheureusement, c'est peut-être quelqu'un de très talentueux que tu viens de recruter que tu vas perdre très rapidement. Et forcément, tu auras un impact dans
c'est
ta créativité.
C'est sûr que l'enchaînement des licenciements, c'est rarement un signal positif, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai surtout peur que du coup, maintenant, les gros studios se préservent sur leurs licences qui fonctionnent, qu'on exite un peu les nouvelles IP qui vont apporter de la diversité, quelque chose de novateur, et qu'on se concentre simplement sur ce qui fait du bénéfice. Et comme tu le dis, les jeux de service, les jeux de sport chez EA, ils veulent se concentrer là-dessus, ils savent que ça marche. Enfin, ouais, moi, j'ai peur de ça et ça m'attriste. Alors, est-ce que c'est une nouvelle ère pour les jeux indés ? Qui vont avoir tout à donner.
C'est terrible à dire quand à la lumière de tout ce qu'on dit, mais de toute façon, les créatifs que nous adorons tous dans le jeu vidéo, ce sont toujours les valeurs d'ajustement des studios. C'est tout, ça c'est un fait. Et ça c'est un truc, quand on est passionnés joueurs, ça peut nous horripiler de penser ainsi. Mais voilà, c'est comme ça, la masse salariale au niveau des créatifs, bah, tu la dégages. Et ça, ça m'inquiète aussi fortement.
Mais ce qui est quand même étonnant quand même quand on se base sur PlayStation, c'est qu'ils n'arrêtent pas de nous dire, et beaucoup de studios le disent, les coûts ont augmenté pour créer un jeu. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi absolument vouloir faire des AAA et pourquoi pas tenter les AA ? Parce qu'à un moment donné, autant réduire tes coûts de production et derrière les ventes suivront. Je veux dire, ils sortent un jeu de 20h, 30h, etc. qui va en plus être moins cher, à mon avis, se vendra très bien chez PlayStation parce que t'as la marque First Party, parce que t'as tout ça. J'ai pas les chiffres de Spider-Man Morales, mais c'était quand même un jeu de 20h. Certes, c'était un spin-off. Mais pour le coup, c'était quand même un jeu qui était plus réduit. Alors certes, on était dans un AAA, mais je te parle là en termes de durée de vie, et le jeu a quand même bien marché. Donc à un moment donné, peut-être voir moins gros et proposer d'autres choses. Mais non, ils partent tous sur les jeux services. C'est ça que je comprends pas, moi, honnêtement. Et là, nous, on va être déçus, parce que nous qui faisons beaucoup de jeux solo très narratifs, ça va être nous les premiers déçus, à mon avis, je pense.
En tout cas, c'est sûr qu'on est sur une ère de transition. Sinon on va passer à la seconde news, hein. J'imagine que vous avez tous vu le dernier trailer du DLC d'Elden Ring, hein, un certain Shadow of the Erdtree qui sortira le 21 juin prochain. French, Pourrais-tu nous décrypter un peu les images qui ont été diffusées avant qu'on comprenne et qu'on en apprenne davantage pour ceux qui sont un peu dans le flou? Et me dire, est-ce que tu attends personnellement ce DLC qui, moi, m'effraie perso?
Si je te réponds que j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer, tu vas pas me croire de toute façon. Donc,
Non, je te crois pas.
Non, mais voilà, oui, moi, c'est une de mes très grosses attentes. Hein. C'est marrant parce que, mine de rien, l'année dernière, on s'est tapé Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077, qui était un DLC que j'attendais énormément. Bah, cette année, c'est clairement le DLC de Elden Ring. Alors, comme toujours avec From Software, vous le savez, vous avez peut-être joué à des jeux From Software, ou au moins vous en avez entendu parler. From Software, c'est jamais une narration très claire, donc ce trailer n'y fait pas exception. Vous allez avoir beaucoup d'images cryptiques, des images que moi j'appelle même assez ensorcelantes, avec une ambiance dark fantasy qui est toujours aussi dingo, quoi. Donc pour les amateurs, bah, vous pouvez déjà foncer et regarder à nouveau ce trailer. Perso, j'ai dû l'enchaîner 4-5 fois d'affilée, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, au niveau des faits, ce qu'on arrive à peu près à voir dans ce trailer, et avec les quelques éléments qu'on sait déjà. Alors, on y voit un territoire qui est totalement inédit, un territoire qu'on n'explorait pas du tout dans Elden Ring. A priori, il s'appelle le Royaume des Ombres. Alors, on sait de Hidetaka Miyazaki, qui est donc le réalisateur de Elden Ring, on sait que cette nouvelle zone aura la superficie de Nécrolim. Nécrolim, vous vous rappelez, c'était la première région qu'on découvrait quand on allait en extérieur dans Elden Ring. Alors, a priori, il y aura des grottes, il y aura tout un tas de secrets. Voilà, donc là-dessus, il ne faut pas s'inquiéter, mais en tout cas, au niveau superficie, il faut s'attendre à ça. Il y aura également 10 nouveaux boss. Alors, 10 nouveaux boss, on espère que ça ne sera pas des copier-coller, mais en tout cas, on nous annonce 10 nouveaux boss.
On en voit déjà quelques-uns.
Bah, de ce qu'on en a vu dans le DLC, c'est bah, différent.
On en voit déjà des badass, hein, grands avec ce truc de feu.
Dans le trailer, t'en vois déjà quelques-uns. Alors dans ceux que j'ai identifiés là, que je vous partage, vous avez peut-être vu un géant en armure enflammée qui a l'air assez dingue.
Bah oui, lui.
Le lion à double mâchoire, ça a l'air plutôt sympa aussi. Et puis surtout, parce que lui, a priori, il risque d'être important dans l'histoire, Mesmer l'Empaleur. Alors Mesmer l'Empaleur, c'est un personnage avec une espèce de regard de serpent très particulier, moi qui m'a beaucoup rappelé Malenia dans le jeu original, mais bon, on va voir quelles sont exactement
les... Il y a des théories de fraternité, je crois, dessus.
Exactement. Bon, sachant qu'au niveau histoire, From Software a quand même balancé un communiqué de presse qui nous explique qu'on suivra les traces de Mikaela pour faire toute la lumière, je cite, sur les mystères les plus sombres. Alors vous allez vous débrouiller avec ça. Mikaela, vous qui avez tous joué à Elden Ring, Mikaela, c'était déjà évoqué dans Elden Ring. En fait, Mikaela, c'est le frère de Malenia qui a été enlevé par Mog. Alors, si vous avez des souvenirs, c'est le moment
Le jeu date d'il y a 2 ans, donc je veux dire qu'on a très peu de souvenirs. Déjà que c'était très cryptique, le scénario d'Elden Ring. Je veux dire, moi j'ai regardé le trailer du DLC, je suis ressorti là, je dis j'ai rien compris, quoi.
C'est
déjà
normal.
Que je me souvenais plus de l'histoire d'Elden Ring en elle-même, alors bon...
C'est normal.
Non, mais Mikaela, elle était condamnée à rester jeune à vie. Et en fait, c'est un peu ça, son parcours qu'on va retrouver dans le DLC.
Exactement.
Je crois.
Exactement. Et Malenia, elle a marqué beaucoup de joueurs, même si c'était un boss facultatif de Elden Ring. C'est la fameuse guerrière avec un casque qui est atteinte de la corruption. C'est-à-dire qu'elle a la peau qui commence à pourrir en permanence. Et elle lutte contre ça dans Elden Ring, entre autres. Voilà, personnage iconique de Elden Ring, Malenia.
Ok, pardon.
Il nous a endormi avec son histoire, en fait.
Je peux t'ajouter un truc sur le gameplay si tu le souhaites. Hein.
Oui, alors, on a un gameplay qui change, c'est vrai.
On pourra récupérer son personnage pour poursuivre l'aventure, bien sûr. Mais on va pouvoir explorer de nouveaux builds. Donc on va pouvoir se battre en particulier.
On a 8 nouvelles catégories d'armes.
Exactement. Et moi, j'ai noté un truc, a priori, qui est déjà confirmé. On va pouvoir se battre avec les poings et les pieds. Donc il va y avoir vraiment le côté martial pur et dur qui sera exploitable dans ce DLC. Et il y a aussi pas mal de nouvelles postures ou de builds. Effectivement, 8 ou plus, on verra. En termes d'armes, il y aura pas mal de subtilités nouvelles. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a hâte de découvrir ça.
Bah, t'aurais quand même pu dire aussi, pour préciser un peu, que le jeu va être vendu à 39,99€, le DLC. Qu'en plus, ils ont lancé le développement, donc ça va être un gros DLC. Limite un nouveau jeu pour moi. Ils ont lancé le développement dès la sortie du jeu d'Elden Ring. Vous imaginez 2 ans de développement sur un DLC, ça reste énorme.
Bah, il promet d'être hyper complet, ce DLC, d'avoir pas mal d'heures, d'être hyper complet. Et alors, par contre, il faudra, vous ne pourriez pas y accéder tout de suite, il faudra avoir vaincu quand même certains boss pour pouvoir accéder à cette partie du DLC.
Ouais, mais on est tous dans le dilemme actuel, parce que moi, Elden Ring, c'est vrai que ça faisait partie d'un jeu que j'avais pas eu le temps de finir. J'étais déjà à 125 heures de jeu, honnêtement.
Pareil.
J'étais dans les montagnes enneigées, donc ça va parler à certains. Donc j'étais quand même, je sais, pas très très loin de la fin. Là, je suis dans un dilemme, les gars. Est-ce que je relance une game à zéro et je me dis, je me remets vraiment dans l'univers? Parce que c'est ça. Autant je me souviens très bien des boss, etc. Mais alors, le scénario, je t'avoue que je l'ai complètement zappé. Alors, est-ce que je relance une nouvelle aventure ou est-ce que je continue mon aventure? Je suis en plein dilemme depuis quelques jours. C'est horrible.
Ah, mais moi, c'est pareil. C'est est-ce que j'ai envie d'y retourner ou non? Parce que je me souviens que c'était une époque où on était tous comme des autistes sur ce jeu.
Oui.
Est-ce qu'on a l'énergie de se remettre dedans? C'est ça la question. Toi, Janma, tu penses que ça va être un DLC qui peut être récompensé au Games Awards?
Moi, je rêverais, franchement, parce que là, j'arrête pas d'entendre. FF7 Rebirth, ça va être le GOTY, c'est déjà fait, nanana. Je déteste quand les gens disent c'est déjà fait, parce qu'on est qu'en début d'année.
Bah, arrête, t'es le premier à dire à chaque podcast l'année dernière, nouvelle, c'est le GOTY.
Et n'empêche, j'avais dit, n'empêche, Hogwarts sera le GOTY, ça a été quand même le numéro 1 des ventes. Donc certes, il n'a pas eu de prix, mais j'étais pas loin dans mes pronostics, on va pas se mentir. Mais je ne serais pas surpris que Elden Ring, le DLC, devienne GOTY. Je vous rappelle quand même que ça ne serait pas improbable. Il va forcément être nommé, à mon avis. Le DLC de Cyberpunk avait été nommé pour la catégorie de GOTY, si je n'ai pas d'erreur. Donc, est-ce que ça vous choquerait qu'il le guide? Je crois de mémoire, à vérifier.
Je ne suis pas sûr que les GOTY passent dans les...
En même temps...
Aparté.
Alors, je fais peut-être une erreur d'analyse, mais par contre, comme il y a les remakes qui sont nommés, ça ne serait pas déconnant d'avoir un DLC qui soit nommé. Hein. Non, mais à un moment donné, on est bien d'accord là-dessus. Mais est-ce que ça vous choquerait, honnêtement, je vous renvoie la balle, que le DLC d'Elden Ring soit GOTY? Ça vous choquerait ou pas, en vrai?
C'est toujours la même question. Est-ce qu'un DLC peut être prétendant au titre de GOTY? Après, la carrure, je pense que va proposer ce DLC, ça en fait en soi un peu un jeu à part entière, mais ça peut être un débat intéressant qu'on pourrait avoir un jour.
Surtout
d'ailleurs.
Qu'il y a des précédents. Tu prends les précédents DLC de From Software, ils étaient tous hyper quali. Celui-ci, beaucoup sont déjà en train de dire « Ah, mais ce DLC, c'est un Elden Ring 1.5 ». Alors, si ça devait se confirmer cette impression, ça voudrait dire que le jeu serait vraiment massif, comme on l'a tous dit. Moi, ma petite sensation, vu le temps de dev, vu ce que From Software a investi dedans, ça va être effectivement un gros, gros morceau.
Voilà. Et c'est compliqué de dire du 1.5, parce qu'on sait très bien qu'ils font attention à ce qui monte, et je suis même pas sûr que les boss qu'on voit dedans sont vraiment les boss. Est-ce que c'est pas plutôt des mini-boss? Attention, hein, ils gèrent la com' comme ils veulent, hein, donc je pense qu'ils en ont très, très peu montré. Attendons de voir.
Surtout que Malenia, que j'ai évoqué, était un personnage hyper iconique qui avait été utilisé beaucoup dans la promotion pour Elden Ring. Et il se trouve que c'est un personnage important, mais totalement secondaire de l'histoire d'Elden Ring. Et qu'on...
Donc du coup, Just,
qu'on ne rencontre pas forcément.
Je donnerai mon adresse mail, parce que imaginons, il devient GOTY. Tu donneras mon adresse mail à tous ceux qui voient déjà FF7 Rebirth comme le grand GOTY 2024. Vous pourrez m'écrire, je viendrai vous consoler. C'est pas grave, la vie continue.
Non mais attends, mais alors ça, moi je m'insurge aussi contre cette affirmation, parce que, excuse-moi, Like a Dragon Infinite Wheels, c'est déjà le GOTY. Alors, il y a combien de GOTY cette année?
Oui, mais ça, c'est ton GOTY à toi. J'en entends très peu parler sur le réseau.
Tout ça, on en parlera à la fin de l'année quand on aurait toutes les sorties majeures de cette année. Pour terminer cette actu métraillée, je voulais qu'on revienne un peu sur les chiffres de Suicide Squad, hein, parce que le directeur financier de Warner Bros. S'est exprimé dernièrement et il indiquait que le jeu n'avait, sans grande surprise, hein, je pense que ça l'a surpris que eux, pas rencontré le succès espéré et qu'il fallait se préparer à des mois difficiles au sein de la section jeux vidéo du groupe. Alors, French, cet échec. Prévisible.
Bah oui, prévisible, oui, prévisible, parce que le développement a été chaotique, parce que l'accueil au niveau presse a été...
discuter, parce que ça a quand même joué sur les ventes.
Son lancement, même en accès anticipé, ça avait déjà été un chaos, donc c'était la suite logique.
Ça avait été un chaos, mais en fait, si vous voulez, moi j'ai envie de revenir sur autre chose, un peu plus en amont de tout ça. Déjà, Suicide Squad, ça vient après la trilogie, enfin même pas la trilogie, 4 jeux. 4 jeux qui sont exceptionnels, qui sont les Batman Arkham, qu'on a tous joué, je crois.
Et je pense que les joueurs ont voulu donner une chance, du coup, suite à ça. C'est vrai qu'on connaît les Arkham, on sait qu'ils sont excellents.
Bah, oui, c'est ça. Et alors déjà, Suicide Squad, c'est un jeu service qui vient déjà avec un autre ADN, dans la proposition ludique qu'on nous propose. L'écriture, elle est moins fine, a priori, de ce que j'en discute avec des personnes qui y jouent vraiment. On parle d'un développement chaotique. Il faut rappeler que le jeu a été déjà repoussé... fortement sur un an, c'est-à-dire qu'on a donné aux équipes un an de plus. Pourquoi? Parce que les premiers retours confidentiels étaient tellement mauvais que l'éditeur s'est dit, bon allez, on vous donne 12 mois de plus histoire d'essayer de rattraper le truc. Bon, Rocksteady a perdu aussi durant la période, alors c'était en 2022, mais c'était en plein dev du jeu en lui-même. Ils ont perdu leur fondateur Sefton Hill et Jamie Walker, qui sont, bon, ils n'ont pas donné leur raison, mais enfin en général, quand tu as tes fondateurs d'un studio après 18 ans, que tu quittes comme ça alors qu'on est en cours de production d'un jeu, ça pue en général. Bon, on a eu un accueil qui était très réservé aussi des joueurs, parce que je sais, Jalma, tu le rappelles souvent et tu as raison. Les joueurs, c'est eux le vrai juge de paix. C'est pas forcément la presse, ce sont les joueurs, comment ils accueillent un jeu. Bah, il se trouve que j'ai cherché un petit peu ce qu'on peut trouver. J'ai trouvé les chiffres sur Steam, sur la version PC. Le jeu a démarré avec 13 459 joueurs simultanés. C'est pas fifou pour un AAA, mais enfin bon, toujours est-il que ce sont les joueurs au démarrage. Et bah, il se trouve que là, c'est tout dernier jour, sur PC, on parle d'une moyenne de 800 joueurs simultanés, et avec des baisses sous les 500. Je parle bien d'une moyenne de 800. Donc autant vous dire que on n'a pas su retenir les joueurs, et ça c'est vraiment mauvais signe pour la suite de la carrière.
Ouais, quand t'as des Helldivers à côté, etc., qui cartonnent, de toute façon...
Ouais, mais parce que déjà, je pense que le Suicide Squad, c'est pas vraiment un jeu service, il y a quand même une histoire solo, etc., et justement, c'est un jeu qui fonctionne par des saisons. Donc déjà, on n'est pas vraiment dans le cadre du jeu service. Moi, je veux revenir sur ce que tu dis sur la presse, parce qu'il y a un truc qui m'a... notamment sur les influenceurs, et là, je vais être obligé de les tacler. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont pas obtenu de clé, parce que Warner Bros., alors c'est leur raison, eux, ils n'ont pas voulu transmettre de clé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu s'est fait défoncer. La plupart du temps, il s'est fait défoncer par tous les influenceurs pour se venger de ne pas avoir de clé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui suivent les avis des influenceurs, donc qui ne sont pas allés sur ce terrain-là. Et pour donner un autre chiffre, parce que c'est bien beau, Fred, je donnais des chiffres sur Steam, mais on fait la lecture de ce qu'on voit des chiffres. Mais moi, je vais t'en donner un autre qui vient de Steam. Comment tu m'expliques qu'à l'inverse, t'as 4400 joueurs qui ont testé sur Steam le jeu et on voit que c'est marqué plutôt positif sur la remarque des joueurs. Donc le jeu est quand même plutôt bon finalement. Je vais te dire un truc sur Steam. Généralement, comme tu dis, c'est le juge de paix les joueurs. Un jeu qui est mauvais sur Steam, ils le disent tout de suite. Quand tu regardes les chiffres à l'heure actuelle, 4400 joueurs trouvent le jeu plutôt positif. Donc ça veut dire que le jeu a quand même des qualités. Mais le problème, c'est que la presse a tellement mal reçu le jeu qu'il s'est fait défoncer avant sa sortie.
Mais il n'y a pas que la presse. Moi, ça... Oui, moi, j'aime bien le comparer à Skull and Bones dernièrement parce qu'on est aussi sur un développement chaotique comme on a eu avec Suicide Squad. Mais non, ce sont des jeux qui se sont vendus trop cher avec des contenus additionnels qui sont également payants. Et les joueurs n'étaient pas convaincus, déjà, de base. Donc comment tu veux rentrer dans les consoles des joueurs avec un développement chaotique, des jeux beaucoup trop chers, du contenu additionnel, quelque chose qui n'est pas solide? Comment tu veux justifier? C'était logique que ça allait capoter.
Oui, mais sauf que, comme je te dis, sur Steam, le jeu a été plutôt bien reçu par les joueurs. Je vais te dire un truc, Skull and Bone n'est pas bien reçu par les joueurs. Donc c'est pour ça que la comparaison, je la trouve mauvaise. C'est-à-dire que le jeu n'est pas si mauvais. Je vais te dire un truc, sur Steam, les joueurs sont impitoyables. Hein. Si le jeu avait été mauvais, je peux dire qu'on l'aurait tout de suite vu dans les critiques Steam. Hein. Donc ça veut dire qu'il a quand même des qualités. Hein. Je suis désolé. Moi, de ce que j'ai lu de quelques presses qui étaient plutôt objectifs, et déjà j'ai eu du mal à trouver des tests fiables. C'est rare quand même dans un jeu là. Pour avoir lu, il y avait beaucoup de répétitivité du jeu. Mais sinon, dans l'écriture, c'est pas si mal. Le gameplay est quand même intéressant et assez varié. Donc il est pas si mauvais.
Moi, je te rejoins là-dessus parce que c'est ce que je m'aperçois en discutant depuis la sortie. J'entends aussi des joueurs qui me disent ouais, le jeu est sympa. Voilà, c'est sympa qui revient. Et franchement, ça revient de loin parce que effectivement, quand tu en écoutes certains ou quand tu lis certaines chroniques, t'avais vraiment l'impression que c'était la bouse finie. En fait, la vérité, c'est que ça semble être un peu mieux que ça. À minima, un peu mieux que ça. Mais il y a quand même un problème. Tu me dis, d'accord, tu veux pas le considérer jeu service. Ok, j'entends, t'as raison, il y a une histoire, effectivement, t'as une campagne.
Par rapport à Helldivers 2, par exemple.
Oui, d'accord, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais Suicide Squad, c'est autant un jeu service que Diablo 4. T'as une histoire, ok, d'accord, mais ton contenu endgame, il se situe à tel endroit. Tu as aussi du craft spécifique et des bonus spécifiques à tel niveau. T'as un système de saison, t'as des événements ponctuels, t'es connecté en réseau dans les deux cas. Connexion obligatoire au passage pour Suicide Squad. Bon, moi, je suis obligé de prendre ça en considération. Et tu as fait une très bonne remarque. Effectivement, sur Steam, c'est plutôt positif. Je viens de vérifier, hein, donc comme ça, je peux confirmer les informations de Jalma au passage.
Il n'y a pas besoin que tu confirmes, mes informations, elles sont toujours viables et vérifiées.
On débunk aussi. Non, mais c'est vrai.
J'ai l'impression que c'est un contrôleur de gestion, le mec, en fait. Ce qu'on fait maintenant en interne.
C'est vrai que c'est important de le dire. Et effectivement, l'accueil était positif. Le problème, c'est que quand on se place dans le cadre d'un jeu service, et c'est quand même la vocation de ce jeu à l'heure actuelle, c'est pour ça que je tique un petit peu sur ce que tu dis. Bon, bah, quand tu t'aperçois qu'il n'y a pas une rétention de joueurs, au moins sur PC, sur console, j'ai pas vu de chiffres. Donc je ne sais pas quelle est la situation. Bah c'est que ça sera plus quand même pour un jeu qui est censé avoir une carrière encore dans 6 mois quoi.
Oui mais French, il faut se dire un truc, je pense que les jeux service ça ne fonctionnera pas dans le temps. Le problème c'est que là tous les studios s'y essayent et pourtant Warner Bros, on en a parlé tout à l'heure, aurait dû se rendre compte avec Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy qui est un jeu purement solo, meilleure vente de l'année 2023. Ouais. Ils sortent un jeu service derrière, pourtant c'est une grosse licence, hein, c'est DC qui est derrière. Ça se casse la gueule. Bah, à un moment donné, les gars, posez-vous les bonnes questions, quoi. Les jeux services, je pense qu'ils ne vont pas fonctionner. Moi, j'attends de voir. Ok, Helldivers 2, moi aussi, me fait envie, je le dis honnêtement. Mais attendons de voir dans un an si le jeu, il y a autant de joueurs. C'est ça qu'il faut voir. Parce que là, il y a l'effet.
C'est vrai que C'est dur de pérenniser. On l'a vu sur Palworld, il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à partir. Après, c'est normal, hein, t'as l'engouement, tu testes. Après, il faut arriver avec du contenu additionnel. Là, d'ailleurs, la saison 1 de Suicide Squad va prochainement arriver. Ça va être axé sur le Joker. Et là, pour le coup, elle va être complètement gratuite. Donc,
parce qu'on est dans une société de...
Ouais, je sais pas.
Mais on est dans une société de consommation. Une fois qu'on a consommé d'argent, on a envie d'ailleurs. Il y a que chez nous, bizarrement, on ne consomme pas les chroniqueurs, on les garde. C'est ça qui est incroyable. Nous, pour le coup, c'est périn chez nous. Au moins, c'est rassurant.
Bon, allez, on va terminer cette actu mitraillée. On va passer au clash du mois. Alors aujourd'hui dans le clash du mois, retour sur Banishers Ghost of New Eden. Le jeu nous plonge en 1695 en Amérique du Nord, plus précisément à New Eden, où vous découvrirez les aventures de Red et Antea, deux chasseurs de fantômes qui sont prêts à tout pour secourir les vivants qui sont hantés par les morts. Édité par Focus Entertainment et développé par Dontnod, cet action RPG fait débattre au sein de l'équipe et on va tout de suite en parler en commençant par l'histoire. French, est-ce que tu veux nous synthétiser un peu cette belle histoire?
Mais avec plaisir, puisque tu me le demandes si gentiment. Du coup, tu as déjà dit beaucoup de choses. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis. L'intrigue prend effectivement place au XVIIe siècle, dans un village puritain du Massachusetts, exactement, dans la ville de New Eden. Alors, New Eden, ne le cherchez pas sur la carte, c'est totalement fictif. Parce que je vous le dis, parce que de base, j'ai regardé un peu, je me suis dit « Ah merde, mais c'est où en fait exactement ?» Et je me suis fait niquer, hein, donc voilà.
Tu t'es vraiment posé la question?
Sérieusement, je me suis posé la question, j'ai regardé sur une carte, parce que je me suis dit « Dontnod aime bien en général une véracité. D'accord. Parfois, t'aimes bien identifier des lieux, des choses comme ça, dans Life is Strange, entre autres, Life is Strange 2. Bah là, non, c'est pas le cas, c'est un truc.
Est-ce
totalement
que sur Juson, t'as trouvé sur quelle île il montait du coup? Non, c'était un troll, hein, mais bon, voilà.
J'ai pas cherché, mais je pense que c'était peut-être La Réunion, l'île de La Réunion. Enfin bon, bref, aparté à part. Donc du coup, on incarne, comme tu l'as très bien dit, Joss, Antea et Red, qui sont donc un couple de banishers, qui chassent les fantômes. Enfin, quand on dit qu'ils chassent les fantômes, ils ont plutôt pour objectif de chasser les esprits qui tourmentent les vivants. Moi, c'est plus comme ça que j'aime le dire.
Ouais.
Parce que c'est un jeu où on va avoir beaucoup de spectres. Et on va s'apercevoir très vite que ces spectres, ils hantent certes les vivants, mais que la vérité est souvent beaucoup plus complexe. Parce qu'une malédiction, quand elle est présente et qu'elle pèse sur les vivants, bah peut-être qu'il y a des raisons parfois pour que ces spectres soient encore présents. Et ça, c'est un petit peu tout le sel un peu du jeu que vous allez découvrir si vous y jouez ou si vous continuez de nous écouter. Alors, lors de leur enquête à New Eden, Antea va mourir malheureusement dans un combat épique contre une entité qui est vraiment hyper vénère et surbalèze, qui s'appelle le cauchemar.
Le cauchemar.
Voilà, le cauchemar. Ouais.
Je la trouve très stylée.
Elle est très stylée et puis elle a une histoire en plus. Ce cauchemar a une histoire, comme souvent. Et son compagnon, Red, va survivre miraculeusement. Il va s'en sortir en vie. Et il va avoir la surprise d'avoir Antea à ses côtés sous forme de fantôme. Alors, c'est une situation qui va être très particulière pour le joueur et pour Red lui-même, puisque ça va poser beaucoup de questions éthiques. En tant que banisher, l'objectif d'un banisher, il est de trouver une solution, c'est-à-dire faire partir les fantômes, leur accorder l'élévation pour qu'ils trouvent la paix, ou bien éventuellement bannir certains types de personnages, ce qui amène à un destin assez cruel. Hein. Les vivants peuvent quand même mourir dans d'atroces souffrances, selon ce qu'on voit à l'écran. Alors, le dilemme qui va se poser pour Red, ça va être de savoir si il va accorder l'élévation suprême à sa bien-aimée, ou bien est-ce qu'il va chercher un moyen pour la faire revenir d'entre les morts. Mais en général, quand on fait revenir un esprit d'entre les morts, ça se paye au prix fort. Et voilà, et c'est ce que vous allez découvrir dans cette histoire.
C'est un cauchemar de l'écouter, hein. Ouais. J'en peux plus.
Non, c'est très bien raconté, c'est exactement ça. Et je trouve que de toute façon, moi, plus que le reste, hein, c'est un jeu... Banishers qui va briller par sa narration, que ce soit les personnages, les dialogues qui sont merveilleusement bien écrits, l'histoire qui, je trouve, dès les premiers instants, arrive à te passionner et à te tenir en haleine. Moi, je trouve que émotionnellement, personnellement, c'est un jeu de ces débuts d'année qui m'a donné le plus de puissance, enfin, m'a fait le ressentir le plus de choses en termes de narration depuis ce début d'année.
Je reviens sur ce que tu dis. C'est vrai que le lien amoureux déjà entre Red et Antea fonctionne merveilleusement bien. Surtout qu'effectivement, il est face à un dilemme, quoi. Comment la sauver? Est-ce qu'il peut encore la sauver? Donc, il y a quand même des moments très, très forts d'enjeu. Et c'est vrai que tu l'as dit, il y a une très, très belle écriture et une mise en scène des personnages, pour le coup.
Mais ça, c'était sûr de les avoir dessus.
Et après, ça, finalement, on n'est pas surpris quand on les trouve dans ce qu'ils savent faire. Ils savent nous émouvoir. Ouais. Moi, je ne vous cache pas qu'il y a un passage. Alors, je dirais juste un passage avec une bête et j'en dirais pas plus. Moi j'ai eu les larmes aux yeux, hein. J'ai pleuré devant le jeu clairement quoi. Ça a été un passage très fort. Donc émotionnellement ils savent faire. En plus ce qui a renforcé l'ambiance, et ça vous l'avez pas dit, c'est qu'on peut discuter avec tous les PNJ quand vous arrivez dans un village. Tous les jeux ne le font pas forcément. Là il y a possibilité de leur poser des questions, etc. Justement on parle d'un fameux cauchemar, etc. Donc on peut leur demander, et vous le cauchemar comment vous le vivez, et chacun te raconte un peu sa propre histoire. Et ça fait pas partie finalement de l'histoire principale, mais ça renforce cette immersion là. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, et il faut qu'on en parle, c'est les quêtes de hantises, qui sont finalement des quêtes annexes, où en fait, vous allez rencontrer différents personnages qui sont souvent hantés pour diverses raisons. Alors, souvent, ça va être des raisons amoureuses, ça peut être des raisons religieuses, même voire politiques. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, le jeu, il m'a emmené sur des terrains sur lesquels je ne les avais pas vu venir. Au-delà de la religion, ils ont abordé le sujet des guerres coloniales. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour le coup, là, moi, je suis allé revérifier sur Internet. Ils abordent à un moment donné l'histoire d'une guerre coloniale. Alors, je ne le savais pas. La première guerre coloniale entre les Anglais et les Français a eu lieu dans cette période-là. La période, parce que French manque toujours de précision dans ces infos qu'ils nous donnent. Ça se passe le 7 juin 1695, exactement l'histoire.
J'aime bien quand tu révises tes cours d'histoire.
Et aussi, il y a une émission qui m'a beaucoup plu, qui parle du traitement de la femme. Vous savez, on a eu un sujet de comment est-ce qu'on peut tout aborder dans un jeu vidéo. Là, j'ai été étonné de voir que Dontnod aborde le traitement de la femme à l'époque. C'était hyper intéressant. Enfin, bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il aborde vraiment différentes choses du jeu. Et c'est ça que je trouve ça hyper intéressant, quoi.
Ouais, mais ça, j'adore, parce que Dontnod, ils osent toujours aller sur des sujets qui peuvent être un peu touchy et les mettre en avant. Et il y a aussi ces choix moraux, en fait, parce que du coup, ces cas de hantise vont conclure sur des choix moraux que vous allez faire, qui vont apporter pour moi une vraie complexité dans la tournure de ton aventure. Donc, ça va être épargner un esprit, le punir, le bannir, ou même respecter ta promesse avec Antea ou non. Et en fait, du coup, cette approche des dilemmes qui est vraiment déchirante pour la plupart. Elle te fait culpabiliser et t'as un réel sentiment d'investissement en fait dans ton histoire. À chaque décision que tu dois prendre, t'as le cœur lourd de le faire.
C'est exactement ça. Jalma parlait de que parfois le jeu arrive à te prendre aux tripes et à te donner des larmes et tout. Moi, c'est le serment que Red va faire auprès d'Antea, qui est quelque chose, moi, qui me touche énormément.
Oui, mais moi, je vais te répondre là-dessus, c'est à cause du serment que j'ai pleuré, parce que du coup, moi, je respecte toujours mes serments, vous le savez, et du coup, je me suis retrouvé face à un dilemme, pour le coup, et alors, je vais pas spoiler, mais juste de sacrifice, qui m'a bouleversé, parce qu'en plus, ils ont mis un énorme travail de mise en scène, et Dontnod, là-dessus, on va tout en parler, du coup, une très bonne musique derrière, qui fait que ça m'a pris au trip. Et ces moments-là, je me suis dit, ah ouais, mais ça, Dontnod, ils savent faire, quoi. C'est vraiment en termes d'écriture.
Exactement.
Et voilà, il y a un truc que j'ai oublié de dire sur les cas de hantise, mais je vais en parler tout de suite, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est souvent les rebondissements. C'est-à-dire que, et ça, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui savent le faire, c'est-à-dire qu'ils te présentent un scénario, et à la fin, au moment du dénouement, tu dis, ah ouais, non, mais je ne m'y attendais pas. Et à chaque fois, je suis tombé dans le piège en me disant ah
ouais,
c'est
un
sacré rebondissement.
Parce qu'un cas de hantise, ça se traverse un peu comme une enquête. Donc petit à petit, vous allez apprendre des éléments jusqu'au dénouement final.
Ouais, ça se passe comme une enquête. Ça fait d'ailleurs peut-être penser pas mal à The Witcher 3, qui semble être une influence non négligeable du jeu là-dessus, sur cette phase-là. Et
ils l'ont dit, influence The
God
Witcher et God of War.
On va reparler. Moi, ce qui m'a frappé par rapport aussi à tout ce que Jalma a précisé sur les cas de hantise qu'on évoque, c'est que moi, souvent, au moment de la résolution, quand il faut choisir quoi faire, appliquer le jugement finalement, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser, beaucoup rappelé ce que j'avais ressenti quand je devais choisir si j'épargnais ou non les sœurs dans Bioshock. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup fait penser à ça.
Ouais. Je vois ce que tu veux dire sur la comparaison, même si je la trouve encore plus dure dans Banishers.
Non, mais pour donner un exemple concret, alors on va pas donner la résolution je vais parler juste du premier cas de hantise sans de la résolution, mais vous savez, vous arrivez avec un bûcheron qui a perdu son meilleur ami parce qu'ils vivent dans les bois pour échapper justement à la malédiction, ils ont des problèmes pour se nourrir, etc. Et quand tu dis, écoute, je vais partir à la recherche de ton ami, et que tu vois réellement ce qui s'est passé et le dénouement, je veux dire, c'est quand même un sacré rebondissement. Tous ces cas de hantise, donc d'essayer d'aider la personne la plus tentée par un fantôme, quand tu vois vraiment ce qui s'est passé, c'est hyper intéressant et c'est des gros rebondissements, quoi. Moi, l'histoire du forgeron aussi, oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais où il y a une où tu comprends pas parce que tu traverses un village à un moment donné, puis le forgeron, tout le monde se plaint de la qualité de son travail alors que c'est un mec qui a beaucoup d'expérience, quoi. Et sa femme te dit, bah il a disparu, etc. Tu dois le retrouver, quoi. Mais à partir du moment donné où tu le retrouves et que tu commences à comprendre ce qui s'est réellement passé, t'es pris au trip parce que tu dis, mais je m'attendais pas à cette histoire-là. Et quel choix je dois faire après, quoi. Et c'est surprenant, quoi.
Ah,
voilà.
Je vais pas pouvoir préciser quoi, parce que je vais respecter le mystère que tu installes, Jalma. Mais ça m'a rappelé aussi un film en particulier. Bon, je vais vraiment pas citer le film, donc voilà, désolé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans une situation d'enquête, on hésite sur la décision à prendre par rapport à ce que les gens nous racontent et par rapport à ce qu'on apprend sur la situation des gens. Donc ça, c'est une première zone grise avec laquelle toi, joueur, tu vas devoir faire un choix ou pas. Et à côté de ça, en plus, tu dois réfléchir à ce que tu as fait comme serment à ta compagne, à Antea, qui est fantôme. Mmh. Et suivant ce que tu vas décider, ça aura un impact direct sur ta propre relation. Donc c'est un double choix dilemme. Ça, c'est génial, quoi. C'est un truc très bien sorti du jeu.
Non, mais c'est la force principale du jeu. Maintenant, moi, je suis quand même obligé de mettre un point négatif en avant et on va forcément après...
Ah, sur l'histoire ?
Bah, pas sur l'histoire, mais le problème, c'est ça fait partie. Après, on abordera les sujets habituels du graphisme et du gameplay. Mais je suis obligé d'en parler maintenant. Le problème, c'est que les points forts qu'on met des scénarios est lié à un gros problème de rythme dans le jeu. Et je suis désolé.
Ah oui, ouais, je suis d'accord.
Et je suis obligé de le dire maintenant, mais c'est que la force du jeu, qui est le scénario ou les cas de hantise, alors j'ai mis 3 jours à écrire cette phrase, je la trouve merveilleuse, donc je vous dis comment je l'écris. La force du jeu est diluée dans la faiblesse du jeu, qui est l'exploration et les combats. Voilà.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Et on va en parler après c'est de vrai. Ça, mais je suis désolé, le problème, c'est que ces moments-là forts dont on vous parle sont rare quand même par rapport à toute l'exploration et les combats qu'on doit en faire entre chaque cas de hantise et ce problème de rythme est un gros point noir du jeu, je suis désolé, quoi.
Ouais, en fait, je suis d'accord, le jeu aurait mérité d'être plus concis et concentré.
Et plus court
pas
aussi,
qu'on
ouais.
se perde tellement, voilà, pour qu'on puisse être vraiment investi encore à 200% dans ces histoires et pas se perdre dans de longues démarches au travers des plaines, etc., qui sont un peu inutiles, quoi.
Je m'attendais à ce que ce soit là-dessus qu'on soit en désaccord et toi, Joss, qui le défendent. Parce que, effectivement,
ah non, mais
c'est même
je reconnais ses défauts et ses qualités, bien sûr.
Toutes les qualités qu'on vous donne au niveau histoire, personnage, interaction entre les personnages, bah, elles sont là, et... ces qualités. On les sent avec le cœur, on les sent avec tout ce qu'on a à vivre dans le jeu parce que c'est puissant, c'est très puissant. Il n'y a pas tant de jeux que ça, tant de productions qui sont capables d'aller sur ces terrains-là. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment dire et redire sur Banishers. Il est très, très bon sur ce terrain. Mais. Dilué, j'ai beaucoup aimé ça chez toi, Jalma. Effectivement, ça se dilue dans une aventure qui a tendance à être trop longuette. Et je pense qu'on va encore en parler.
On peut me dire un mot chiant, comme tout, mais on va en parler après, je pense.
Ouais, on va en parler après. Juste avant, on va passer à cette DA hein, qui est portée par l'Unreal Engine 5. Alors, c'est une DA qui est plutôt correcte, avec un univers artistique que moi, je trouve intéressant, sans pour autant être graphiquement fou. La mise en scène, par contre, t'en as parlé, Jalma, mais elle est superbe, avec un côté très cinématographique. On a des beaux panoramas, on a des jeux de lumière, l'ambiance, elle est là, elle retranscrit bien les zones maudites et les terres désolées, en fait, hein, avec toute cette brume. Franchement, c'est travaillé. C'est pas le jeu le plus poussé techniquement, mais il propose une vraie identité visuelle, et ça, j'ai apprécié. Les OST, t'en as parlé également, elles sont très belles, même si je les trouve, malheureusement, un peu trop... absente à mon goût, j'aurais aimé peut-être un peu plus de présence, mais elles sont vraiment belles quand elles sont là, on les apprécie. La VF, toi je pense que French tu l'as joué en anglais, ouais. Mais moi je l'ai joué en français. La VF est d'une qualité exceptionnelle. En fait, si, pour moi, s'il y a une vraie grosse faiblesse dans la DA qu'on doit pointer du doigt, ça va être les animations faciales, que je trouve un peu trop rigides, et quelques textures, pareil, qui sont pas dingues. Sur le reste, c'est plutôt ok.
Ouais, après c'est vrai que graphiquement c'est un jeu qui commence à dater pour un jeu de 2024, moi c'est ce que j'ai trouvé, ouais. Mais ils ont réussi effectivement comme tu dis à mettre une ambiance dans, bah les, ouais. l'exploration et les décors qui sont intéressants, tu vois, attends, vous allez traverser des villes, de la forêt, de la montagne, des marais, puis il y a des très beaux points de vue aussi de là dont t'as pas parlé,
bah
mais
ouais.
Quand t'arrives entre deux zones, moi je fais souvent la référence quand tu quittes les bois sombres avant d'arriver dans les marais, vous allez avoir une vue sur toute la vallée et New Eden qui est magnifique, quoi. Et là t'as envie de faire quelques screenshots, donc là-dessus c'est maîtrisé. Moi, par contre, ce que je regrette aussi dans ce côté décor, c'est cette mission d'avancer. C'est ce que je vais m'expliquer. À un moment donné, vous allez devoir chasser une bête, en fait. Et là, j'ai trouvé hyper intéressant parce que tu as un but d'explorer. Et j'ai trouvé que la chasse, la traque de la bête, moi, j'ai trouvé ça génial. Là, ouais. Ça me poussait vraiment à avancer, etc.
En plus, tu t'avances et ça te révèle des indices petit à petit, donc ça te tease.
Dans cette ambiance de forêt. Mais Mais putain, mais pourquoi vous avez pas fait ça tout le long du jeu? Alors pas forcément traquer des bêtes, mais qu'on ait un but d'avancer en fait, tu vois. Et ce passage-là, j'ai adoré. Mais le reste de l'exploration, le problème c'est que les décors sont pas pour moi suffisamment forts pour être attractifs. Et t'avances en fait, sans but à un moment donné pour aller d'un point A à un point B. Et là, je regrette, je trouve ça dommage.
Je suis d'accord avec toi. En fait, l'ambiance, elle est vraiment là, mais les environnements qu'on rencontre, ils deviennent un peu répétitifs à la longue. À partir d'un passage, on a un certain switch.
Mais sans réel objectif,
et voilà, c'est
en
ça,
fait.
Tu vas remettre des tunnels, des crevasses, des corniches. Et du coup, en plus, je trouve que lors de nos déplacements, c'est plutôt vide. C'est vraiment nous et Antea qui nous baladons. Tu rencontres pas énormément de personnages, à part dans les biomes où il y a les villages. Et du coup, c'est vide. Du coup, ça fait que tu t'ennuies un peu, ça fait un peu boucle et un peu rallonge sur la longue.
Exactement. C'est ça le gros problème. Ça souffle beaucoup le chaud et le froid en permanence. Il faut quand même rappeler que c'est un jeu qui ne sort pas sur les Xbox One et les PS4, qui sort que sur la génération des PS5, Xbox Series S et X et PC. Et du coup, bah, déjà techniquement, moi, je m'attendais quand même à mieux. Voilà, je peux pas avec eux. En étant le plus gentil possible.
Oui, après, bon, c'est assez. C'est assez graphiquement moyen, mais c'est un triple
A.
C'est un
double
A,
ouais.
C'est un
double A, bien sûr.
Un double A, faut pas l'oublier non plus.
Mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Et après, quand je dis le chaud et le froid, moi, je l'ai ressenti à tout un tas de niveaux. Tu parles des animations faciales, par exemple. Alors, oui, elles sont un peu trop limitées pour un jeu d'aujourd'hui, même pour un double A. Je suis désolé de le dire ainsi. Et ça contraste véritablement avec le doublage, que ça soit VF ou version anglaise, version originale anglaise, où en général les doubleurs jouent avec conviction leur rôle. Et pour moi, ça me crée une petite distance par rapport au personnage que je trouve un petit peu trop peu expressif.
Ouais, mais en fait, les textes sont tellement bons. Quand tu te balades, il y a toujours des discours. Donc ça, par contre, c'est agréable dans l'exploration, c'est qu'il y a toujours des échanges entre eux.
Mais attendez, les gars,
mais
les échanges
sont excellents.
Ouais, mais heureusement qu'il y a
les
ça.
Les échanges sont excellents.
Mais non, mais heureusement qu'il y a ça, parce qu'on va le dire, on se fait chier, quoi.
C'est vrai qu'en plus, c'est terrible, parce que tu ne fais que rencontrer les mêmes ennemis en boucle, on en parlera plus tard, mais du bestia. Et ça,
non, mais on en
tu rencontres
après,
aucun
mais,
humain
mais,
qui s'est égayé un peu tes trajets, mais plein d'ennemis, et ça en devient chiant.
Non, mais le problème qu'il y a dans le jeu, quand même, je comprends pas qu'ils n'aient pas assumé de faire un jeu couloir et plus petit dès le début. Ça aurait intensifié le scénario qui est très bon, parce que. Je suis désolé, mais quand vous explorez, il y a beaucoup d'embranchements. Donc, ils ont pris le système de The Witcher avec des points d'interrogation. Tu vois le point d'interrogation, et puis en plus, ce que tu lootes, ça te rapporte pas grand-chose. Donc, en plus, l'exploration n'est pas récompensée. Donc, heureusement qu'il y a ces dialogues entre Antea et Red qui fonctionnent très bien. Parce que, à part la traite de la bête, mais l'exploration, je suis désolé, mais on s'ennuie. Et en plus, le problème, c'est que tu explores très régulièrement. Parce que, par exemple, quand tu veux résoudre un cas de hantise, généralement, on va te dire clairement les choses. Il y a une heure d'exploration à se taper en amont. Donc finalement, ton histoire, elle est diluée. Et là, il y a une zone entre les bois sombres où là, vous allez avoir beaucoup de cas de hantise et les nouvelles zones où vous allez retrouver des cas de hantise.
Oui.
Mais il y a au moins 6-7 heures d'exploration où tu ne fais qu'avancer sans but, en fait. Voilà. Et là, à un moment donné, moi, ça me pose un réel
un
problème
de rythme
dans le jeu
et
de dynamisme.
C'est son gros point faible.
Et à un moment donné, il va falloir m'expliquer quand même comment certains joueurs on peut faire le jeu en 25 heures. Non, mais à un moment donné, il va me falloir quand même des explications. Où on me dit, mais le jeu est très bon, je l'ai fait en 25 heures. Moi, je vais vous dire, je suis à plus de 40 heures, 50 heures de jeu, je ne l'ai pas encore fini. Je préfère l'assumer en podcast et dire que je ne l'ai pas fini parce que l'exploration, je n'en peux plus. Et je galère à le lancer tellement je m'ennuie actuellement dans le jeu entre deux zones. Et je vois un mec quand même sur Internet pour le faire en platine à 100 heures.
Ouais.
Donc comment tu peux faire le jeu en ligne droite en 25 heures? J'exige des explications dès aujourd'hui.
Ah, écoute,
quoi.
Moi, tu vois, c'est peut-être là. Moi, j'approche de la fin, je pense. Hein, moi, si je me trompe, French, je suis quasiment sur le dernier arc. Et honnêtement, j'ai pas mal d'heures dessus parce qu'au début, j'ai pris beaucoup de temps sur l'exploration. Mais là où j'en suis, j'ai juste envie de me concentrer en fait sur l'histoire. D'ailleurs, qui pour moi est le plus important de ce jeu, qu'est-ce qui prône? C'est l'histoire d'amour entre Red et Antea. Et du coup, là où j'en suis à ce stade, maintenant, j'ai envie de...
Oui, donc tu vas le faire en ligne droite, quoi.
Voilà. Bah, sur la fin de ma game, là, je commence à rentrer sur de la ligne droite, Après, je suis sur la fin de ma game, attention.
Bah, de toute façon, rassure-toi, le jeu, très, très expressément, va te faire savoir quand tu auras atteint un point de non-retour. Donc déjà, sois pas inquiète. Mais moi, je l'ai fini, j'ai plus le nombre exact d'heures, mais Jalma, sois rassuré, j'ai mis plus de 50 heures. Et effectivement, c'est un point intéressant ce que tu cites, parce que autant l'histoire principale qui parle donc d'amour, de mort, de sentiments... Elle est extrêmement riche et extrêmement troublante et touchante. Ça, c'est vraiment... on peut le répéter, le répéter, le répéter. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, et on l'a dit aussi en off, les cas de hantise, qui sont l'équivalent des missions annexes narratives du jeu, peut-être qu'un joueur va peut-être pas forcément toutes les faire, et ça peut se comprendre, parce que, sincèrement, de mon côté, j'avais aussi envie, sur la fin, de finir le jeu.
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que tu vois, t'es à 50 heures de jeu, et à cause de l'exploration qui est chiante, t'as même pas fait tous les cas de hantise, t'as pas fait tous les cas de hantise, parce que t'en avais marre, en fait, et c'est dommage.
C'est ça.
Mais attention, je tiens juste quand même à préciser un certain point, c'est que t'as des points de TP, donc l'exploration devient plus limitée quand tu as commencé à... Quand t'as fait la première moitié du jeu, t'as quand même pas mal de points de TP, tu peux très facilement retourner dans les zones principales où il y a les futurs cas de hantise.
Ouais, enfin, les TP sont quand même éloignés d'une zone à l'autre, parce qu'on peut dire que les TP fonctionnent à la Tomb Raider, je pense qu'ils s'en sont un peu inspirés. Les Tomb Raider, c'est des feux de camp que vous allez trouver qui servent de points de TP. Oui. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui sont quand même suffisamment éloignés, donc c'est pas si facile de se déplacer d'un point à l'autre, hein, même si t'as les points de TP. Hein. Puis alors, moi j'en ai ras-le-cul de ces jeux couloirs avec embranchement, où tu n'as pas tous tes pouvoirs dès le départ, que tu es obligé de revenir,
pour
y accéder, et que c'est pareil.
Oui, mais non, mais moi j'aime bien, parce qu'en fait, c'est évolutif dans ton gameplay, et que ce soit dans les combats, alors on va le dire, c'est Antea qui majoritairement va acquérir des compétences au fur et à mesure de ton
useless,
aventure.
Mais oui, on en reparlera, oui.
Non, pas complètement useless, quand tu les exploites en combat, elles sont super utiles,
super
franchement.
Chiant, on va en parler du gameplay.
On va parler du gameplay, vas-y.
Bon, moi je vais le dire tout de suite, comme vous avez comparé le jeu à God of War, le pire c'est que c'est horrible, j'avais eu raison en regardant le trailer, je vous avais dit, donc je vais le dire, c'est le God of War du pauvre. Et bah, c'est exactement ça. Je vais quand même essayer de trouver des.
C'est pas un action RPG exceptionnel, mais c'est pas un mauvais nom.
Non, mais alors je vais déjà commencer par les points positifs. Il y en a très peu, mais j'en ai trouvé, vous voyez. Justement, j'ai trouvé que le système de combat où tu peux switcher de personnage entre Red et Antea, je trouve que c'est assez bien pensé. Après, bon, on est sur du RPG classique, c'est toujours agréable d'apprendre des nouvelles compétences au fil de l'aventure et d'avoir des améliorations de tes armes et des armures. Je trouve que la variété des boss, c'est intéressant. Ça demande à apprendre des patterns et de les aborder de manière différente.
La variété des ennemis, par contre, hein, parce que les bestiaires, c'est les mêmes en boucle. Hein, un spectre...
Alors, volontairement, je n'allais pas sur les points négatifs pour pas massacrer le jeu.
Pardon, excuse-moi, mais vas-y.
Et je trouve que le jeu devient un tout petit peu plus fun, à partir du moment donné où on va récupérer le fusil.
Ouais.
Je trouve que ça devient intéressant et que ça va apporter une gameplay. Bon, maintenant, on va aller sur le action RPG. Les gars, je suis désolé, d'autres notes, je vous aime beaucoup. Mais là, les gars, les action RPG, on en a quand même beaucoup. Vous auriez pu vous inspirer du meilleur. J'ai l'impression que vous êtes inspiré du pire.
Non.
Je suis désolé à dire. Mais je suis obligé de le dire, je suis désolé. Déjà, comme tu as dit, il y a une répétitivité des combats.
Ouais.
Tu croises sans arrêt les mêmes mobs. Et tu as beau changer tes armes, tu as beau changer tes armures, c'est tout le temps la même façon.
C'est pour ça que ça crée encore une fois, en plus de l'exploration, un certain ennui en fait. T'as pas vraiment de challenge dans ces combats, c'est hyper répétitif, mais du coup, le fait d'avoir des compétences supplémentaires que t'acquiers tout au long de ton aventure, pour moi, vient un peu changer un peu ces combats et les dynamiser en
fait. Tu vois vraiment la différence
in-game ? Antea a un réel apport dans le gameplay.
Oui, elle a un petit apport, mais est-ce que tu vois dans le gameplay une réelle différence ? T'as beau changer tes armes et tes armures, je ne vois pas la différence in-game.
Non.
Dans un God of War, quand tu changes d'armure,
quand tu dis un God of War du port, moi, je trouve qu'il a quand même son style qui est singulier, en fait, dans son approche des combats. Et ça, c'est vraiment dû à la complémentarité de Red et Antea. C'est deux gameplays qui sont totalement différents. Antea, il est plus dynamique, avec des attaques spectrales que tu vas d'ailleurs développer tout au long de ton aventure. Mais qui sont très cool. Ça peut être une grosse boule d'énergie qui va repousser tous ces ennemis autour de toi.
Une fois que tu l'as fait, tu fais ça 40 fois d'affilée, on est d'accord.
Oui, mais ces pouvoirs, tu les débloques vraiment petit à petit. Tu les as pas tout de suite, en fait.
D'accord, mais ça change quoi dans ton gameplay ? Est-ce que tu vois une différence d'approche des ennemis ? Pourquoi, à un moment donné, mettre tout le temps les mêmes ennemis ? Et pourquoi ne pas avoir réfléchi à te dire, tiens, t'as un tel ennemi, je vais l'aborder de telle manière. Pourquoi pas de la magie ? Ou il y a des certains ennemis, il faut les combattre qu'à distance, d'autres qu'au corps à corps, essayer de les esquiver.
Ouais,
c'est tout
d'accord.
le temps la
ça,
même façon de te battre. Et en plus, c'est ça, t'as beau changer, je le redis, de changer tes armes et tes armures, je ne sens pas la différence dans le jeu. Je ne sens pas de différence manette
surtout
en main.
Que,
et vous ne pouvez pas me dire le contraire, quoi. Franchement.
Surtout que je trouve que si tu parles un peu du côté RPG, je trouve que pareil, cet arbre de compétences, moi, personnellement, je le trouve pas dingue. Déjà, je le trouve pas bien foutu. En plus, quand tu acquiers une compétence, tu es obligé d'avoir un malus en même temps. Perso, c'est pas là où j'ai passé le plus de temps, tu vois. Alors que d'habitude, c'est l'endroit où tu te fais le plus kiffer. C'est ton arbre de compétences. Là, je le trouve vraiment très moyen.
Il y a deux éléments, moi, qui m'ont percuté et que j'ai pas apprécié non plus. Je vous rejoins là-dessus. C'est déjà, dans le fameux arbre de compétences, le fait que tu ne puisses pas tout équiper. Le jeu a fait un parti pris qui est intéressant, c'est de te dire, vous pouvez pas prendre toutes tes compétences. Vous allez parfois devoir en choisir entre deux avant de passer à la compétence suivante. Ce qui est bien, c'est qu'on peut reset. Reset en permanence pour changer les compétences si on veut récupérer ses points pour changer pour autre chose. Mais je trouve que c'est très mal équilibré, que l'explication est pas très très claire et que, comme Jalma l'a très bien dit, l'influence sur le gameplay est quand même très variable suivant les pouvoirs. Deuxième point qui, moi, m'embête énormément aussi, c'est sur l'amélioration de l'équipement et des armes. Certes, on voit ce que ça va apporter, mais il y a parfois aussi des fameux malus que toi, Joss, tu évoquais, qui s'appliquent aussi avec des chiffres qui baissent ou certaines compétences, force par exemple, volonté, je crois. Enfin, il y a tout un tas de catégories qui apparaissent in-game.
Oui.
Et j'ai trouvé ça très, très, très peu clair. À tel point que quand j'ai trouvé mon équipement du jeu, j'ai fait progresser que ça. J'ai plus voulu m'embêter avec d'autres équipements parce que ça me saoulait.
Non, mais ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que vous parlez des points de compétences et tout, mais il n'y a pas un truc qui vous a surpris, les gars? C'est-à-dire que tu n'as même pas un rappel des touches, des compétences que tu débloques.
Ouais.
Moi, je suis quand même étonné. C'est-à-dire que tu débloques des trucs, tu n'as aucun rappel de touches. Alors, déjà. Donc du coup, ce que tu fais, t'arrives en combat, tu vas déjà essayer. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas un rappel des touches. Sans parler effectivement que c'est pas clair. Et puis vous parlez des caractéristiques du personnage, donc force, volonté et tout. Mais honnêtement, vous avez compris
à quoi
en ça
fait, servait. Non, mais si, mais si, parce que
il y a aucune explication.
Bah voilà.
T'as beau changer d'arme ou d'armure, tu vois pas
la
différence.
Non, mais en fait, t'as des barres qui sont importantes dans tes combats. Et
ah bon?
Bah ouais, c'est par exemple, en fait, Red, il va gagner. En fait, quand il combat, il gagne de l'énergie qui va permettre d'invoquer et de contrôler en TA. Et quand cette barre
se vide... Oui, mais moi, je te parle de dextérité, force, vitalité, sagesse, tout ça. T'as compris tout ça?
Ouais, non, c'est pas là. Mais je te dis, en fait,
voilà.
c'est vrai que c'est terrible. C'est là où on se rend compte que moi, c'est pas un jeu où j'ai passé le plus de temps sur le côté RPG du jeu, soit l'exploration.
Mais on est sur un action RPG. Et attendez, les gars, moi, il y a un truc qui m'a choqué. On est sur un action RPG. On va prendre Avatar, qui est un action RPG. C'est un jeu récent. Ça vous choque pas que le jeu se définisse comme RPG et que tu n'aies pas de crafting? C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, on te donne de plats de fabrication pour créer tes propres armes ou armures. C'est soit tu en récupères des nouvelles dans des coffres, soit tu les améliores. Mais il n'y a pas de crafting. Moi, je suis étonné, c'est la première fois que je vois ça dans un RPG. Moi, j'aime bien, justement, pour personnaliser ton aventure, crafter ce que j'ai envie de faire. Quoi.
On le descend, j'ai pas envie de descendre à ce point parce que.
Mais on est obligé de le faire parce que nous, on est des gens honnêtes. Toute la presse a mis 8 ou 9 sur 10, c'est un scandale, les gars. Le jeu vaut 5, je suis désolé.
Pour moi, c'est un solide 6,5.
C'est pas
un gameplay qui est original, mais moi je trouve que ça fonctionne bien. Et en fait, je rappelle que le studio il est pas habitué
mais
à
arrête,
ça.
Arrête, les combats sont hyper chiants, c'est tout le temps la même chose. Au bout d'une heure, t'as fait le tour du jeu.
Oui,
mais il faut
dire
c'est
ça. Mais c'est pas mauvais. Et en fait, pour moi, c'est juste, on en revient au même problème, c'est qu'il y a un problème de rythme, il y a un problème de longueur. Et s'ils avaient fait ça sur 15-20 heures, le jeu aurait été excellent.
Non mais d'accord, mais...
Les combats, on n'aurait pas trouvé ça aussi longué.
Mais...
L'exploration, on ne l'aurait pas trouvé aussi chiante. Le problème, c'est qu'ils ont voulu
trop en
faire.
Mais en plus, l'exploration, elle ne te rapporte de rien. Souvent, tu vas avoir des explorations, vous allez trouver des coffres. Des coffres. Est-ce que les pièces de 8, qui est la monnaie du jeu, vous l'avez utilisée sincèrement? C'est-à-dire qu'en plus, tu crois...
Pour acheter des trucs quand même, chez les marchands quand même.
Oui, mais sauf que moi, quand je suis arrivé dans les boissons, c'est la seule marchande qui prenait des pièces de 8, j'avais pas assez pour ce que je voulais. Et j'ai eu beaucoup plus par la suite, sauf que maintenant j'ai la flemme d'y retourner, sauf pour faire les cas de hantise finalement. Enfin voilà, tu croises jamais de marchand en cours de route. Moi j'ai eu un gros problème.
Tu croises pas grand monde en cours de route, ça c'est dommage.
Non, mais en plus je joue le jeu en mode très difficile. Il m'est arrivé un truc, je vais vous le raconter parce que ça c'est exceptionnel. Tu as rappelé qu'entre deux feux de camp, c'est une sorte de, on va dire, de sauvegarde, même si c'est une sauvegarde manuelle, mais ça te permet de te reposer et de renouveler ce qu'on appelle tes potions.
Et d'ailleurs,
de soin,
juste, je me permets des mises en scène magnifiques quand t'arrêtes sur tes vœux de camp. Moi, je trouve que là, encore une fois, sur l'émotion, parce qu'on l'a pas dit dans la DA, excuse-moi, Jalma, mais encore une fois, sur l'émotion qu'ils veulent te faire transmettre, ils sont très forts.
Essaye de sauver le jeu quand même.
À chaque fois, t'as Red, du coup, qui s'endort et t'as Antea qui tourne autour de lui en attendant qu'il dorme parce qu'elle peut pas dormir vu que c'est un esprit. Et je trouve que tout. T'es porté sur une mise en scène pour les émotions et pour le sentiment très fort. Donc, petit kiff, c'est
donc je termine mon histoire. Donc, j'avais plus que deux potions de soins, d'accord? Là, je tombe sur un mini-boss. Et en plus, je déteste quand d'un seul coup, t'as un pic de difficulté alors que mon aventure se passait très bien. Là, à aucun moment donné, les mecs se disent « Tiens, on va mettre un feu de camp avant le mini-boss. » J'ai galéré comme pas possible à me faire défoncer par le bordel. Donc, deux solutions. Soit je le faisais tomber, soit... Il fallait que je reprenne une sauvegarde antérieure pour revenir à pied à feu de camp qui était à 2 heures honnêtement de là où c'était. Et je me suis dit, mais les gars, pensez à mettre des feux de camp avant des mini-boss, c'est pas
après,
possible.
Après, t'as quand
quoi.
Même plusieurs points de sauvegarde automatiques qui se font rapidement. Mais en fait, moi, ces combats dont tu parles...
Oui, mais quand t'as plus que deux potions, tu fais
combats,
comment?
Oui, bah ça, c'est souvent où je me suis retrouvée dans la merde avec les potions. Mais,
bah voilà, on est
mais en plus, souvent, je sais pas pourquoi j'appuie sur la mauvaise touche, j'ai envie d'appuyer sur la touche des potions pour attaquer. Donc, du coup, des fois, il emboît bêtement. En plus, il a un temps de réaction au ralenti. Enfin, bref. Mais moi, sur les combats, là où j'ai trouvé très dur, ça, c'est un truc que je voulais aussi préciser. Pour moi, c'est le système de lock que je trouve vraiment bancal, en fait. Et
insupportable.
Horrible. Et en fait, ce système de lock, il fait brouiller ta caméra. Et du coup, ça complexifie les combats, quoi. Parce qu'en soi, les combats, ils sont pas non plus infaisables, mais ce système de lock les rend très complexes.
Et te met de la pression parce que t'as Antea qui dit derrière, attention, il y a le fantôme qui prend son fusil. Sauf que toi, t'es locké sur le mec que t'as encore à corps. Le temps de déloquer, d'esquiver, tu te prends un coup de fusil, bouffe, t'es mort. Sauf que ton feu de camp, bah, il est à des lustres, donc tu dis, putain, merde, faut que je recommence. Mais voilà ce que j'ai vécu, ce problème de lock, merci. Quoi.
Et ce problème de lock, alors malheureusement, je vais vous rejoindre dans la fête.
Ah, oui.
Il y a un truc très particulier, la situation n'arrêtait pas de se répéter dans ma game, donc je pense que vous l'avez rencontré aussi. Les esprits, les spectres qu'on affronte, souvent vont pouvoir posséder autre chose, et en général, sont beaucoup plus forts. Donc la technique, en fait, il faut d'abord trucider l'esprit qui a été possédé. Ensuite, on a le spectre qui sort de ce corps et on peut affronter le spectre lui-même. Et généralement, c'est beaucoup plus rapide. Sauf que quand tu loques le corps qui a été possédé, que tu as fini de bousiller ce corps possédé, généralement, l'autolock ne se met pas sur le spectre qui poursuit. Mais il se loque sur autre chose. Enfin, c'est assez aberrant à jouer en vérité, ce genre de truc. Moi, je trouve ça mais complètement
puis,
à côté
de la. Il y a un autre truc dont je voudrais parler, j'en parle vite fait. Je trouve ça dommage pour les cas de hantise, vous allez avoir une enquête qui va être menée, etc. Mais je trouve ça dommage que l'enquête, on soit passif et pas actif. Moi, j'aurais aimé avoir un système d'enquête comme on a dans les Batman, ou même Avatar d'ailleurs. Comme quoi, Avatar finalement a des bonnes qualités quand tu vois Vanisher, je suis désolé de faire la comparaison.
Mais au moins,
tu sais, tu devais faire. Dans Avatar, quand t'avais une enquête, tu devais faire des liens.
Ça me saoulait.
Et c'est un parti pris. Mais j'aurais aimé que ce système d'enquête, on soit vraiment actif. Là, vraiment, le cas d'Antise, tu vas cliquer sur des objets, on va te raconter une histoire et ça avance. C'est dommage qu'ils aient pas fait un truc plus participatif,
en fait,
quoi. Tu
c'est
vois.
Comme tout. C'est comme tout, malheureusement, c'est très bon, mais c'est très répétitif. En fait, avec le cas d'Antis, tu vas à la source du problème, tu vas mener ton enquête, tu reviens et tu décides de bannir ou non l'esprit. Quoi. Il y a de la répétition vraiment dans tout, que ce soit le gameplay, l'exploration.
Mais c'est toujours très bien dialogué, c'est toujours très bien amené, malgré cette répétition.
Mais ça reste merveilleux. Moi, c'est un coup de cœur de ce début d'année. Il y a beaucoup de critiques que je lui approche, mais Banishers. Ça fait partie des jeux de ce début d'année qui sont...
Alors moi je vais m'adresser directement à Dontnod. En plus, on peut le dire, ils vont nous écouter parce qu'on a eu une clé du jeu. Donc je vais leur dire à Dontnod, parce que je les adore, continuez vos jeux sur les scénarios comme Jusant, où justement là, c'est de la vraie nouveauté de l'expérience.
Non.
Mais les gars, les actions RPG, au pire, faites un copier-coller de ce que les gens savent faire ou arrêtez les actions RPG, parce que là, c'est pas possible.
Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Mais du coup, on va en venir au convaincu, pas convaincu. Jalma, vu que t'as commencé à prendre la parole, toi, j'estime que...
Je vais te dire, je te réponds sincèrement, j'ai autant adoré le jeu que je l'ai détesté, finalement. Donc, est-ce que je le conseille ? Je ne peux pas le déconseiller tellement le scénario vaut le coup, et tellement les cas de hantise sont très forts. Par contre, en termes de gameplay et d'action RPG, je dis non. Je mets un carton jaune, comme au football.
Ouais, moi, contrairement à toi, je vais être plus cool. Je suis archi convaincue par le jeu, hein, déjà. Et en fait, Vampire, à l'époque, c'est un jeu que j'attendais beaucoup et qui m'avait déçu. Vous le savez, on en a déjà parlé, c'est un jeu qui m'avait déçu par sa rigidité, pareil, par certaines longueurs aussi, qu'on retrouve finalement encore dans Banishers. Et du coup, j'étais impatiente de les revoir sur ce genre de proposition-là. Et franchement, moi, ils m'ont pas déçu. Je sais pas ce que vous attendez, mais moi, il est là où je l'attendais. Et je pensais déjà les faiblesses que je ressens aujourd'hui, j'imaginais déjà qu'elles allaient être là. Tu vois, j'ai pas été surprise, en fait. Je trouve que l'histoire... Elle est merveilleusement racontée. Les personnages, peu importe quels qu'ils sont dans ton aventure que tu croises, ils sont très bien écrits. Il y a quelques faiblesses.
On est d'accord.
Il y a quelques faiblesses sur le gameplay, mais ils restent largement ok. Pareil, petite faiblesse sur les graphismes, mais l'ambiance, elle est vraiment là. Elle est très très cool. En fait, c'est pas une surprise. Du coup, c'est pour ça que je suis pas archi déçue. Moi, il est là où je l'attendais. On n'est pas sur un triple A. C'est une toute petite équipe qui a bossé dessus. Donc, honnêtement, le résultat, il est plutôt bon. Si je dois émettre un reproche. C'est que j'aurais trouvé en fait que le jeu mérite d'être un peu plus court, comme je vous l'ai dit, pour éviter cette redondance qu'on a tous ressentie du coup. Je pense qu'on s'accorde tous à dire, et la plupart des joueurs, quand je lis d'ailleurs même les reviews, s'ils avaient été un peu plus concis, en fait, on aurait eu une histoire beaucoup plus intense, un gameplay qu'on aurait beaucoup plus apprécié, cette exploration qu'on aurait plus appréciée aussi, parce que ça aurait rajouté un peu de dynamique. Donc là, c'est le seul hic que je peux lui mettre. S'il y a des embranchements qui ont certaines longueurs, ok. Mais personnellement, en fait, j'ai envie de soutenir et d'encourager les studios qui osent sortir de leur zone de confort. Donc pour moi, c'est un grand oui. Je le recommande de le découvrir. Je recommande de soutenir ces studios français qui prennent des risques. Et c'est une très belle sortie de ce début d'année pour moi. Voilà. French.
Je suis très heureux de passer dans le rôle du père fouettard après toi, Joss.
Oui, est-ce que c'était la Saint-Nicolas ? Là, c'est beau ce qu'elle vient de dire comme discours.
Tu vois, oui, effectivement. Moi, j'adore Death Note, vous le savez, je les adore. Je suis moins fan, pour être tout à fait transparent, des gameplays de God of War 2017 et God of War Ragnarok. Ce n'est pas les formules qui me plaisent le plus à jouer. C'est très important dans ce que je vais dire. Banishers, c'est peut-être pas un God of War du pauvre, mais c'est clairement une influence des God of War modernes avec un budget beaucoup plus petit. Ça, c'est indéniable. Ça me paraît difficile de passer ça sous silence, comme on l'a beaucoup dit durant le podcast. Bon, ce qu'il fait, il le fait moins bien. Et c'est ça qui est embêtant. Du coup, moi, ce qui m'a beaucoup embêté, et quand bien même l'histoire est géniale, les personnages sont bien campés, j'ai envie d'y croire, ça a touché mon petit cœur, ça a réveillé même mon petit cœur, c'est quand même dingue, ça. Non, quand bien même il y a tout ça, le problème, c'est que quand tu as toutes ces forces qui se diluent, le mot de Jalma, je l'adore, quand tu as toutes ces forces qui se diluent...
Si je t'inspire, moi, ça me fait
ouais,
plaisir.
Là, c'est cadeau. Quand tu as toutes ces forces qui se diluent dans les faiblesses d'un jeu... C'est toujours quelque chose qui m'embête un petit peu, parce que finalement, sur un run de 50 heures où vraiment on profite du jeu, et ben malheureusement, on s'aperçoit que c'est peut-être 15 heures de bonheur sur 50 heures de jeu, et moi, c'est des choses avec lesquelles j'ai du mal. Donc, je vous le recommande, mais uniquement si vous aimez le style Death Note, si l'histoire vous captive de base, et si vous êtes prêt à passer outre les défauts du jeu qu'on a évoqués.
Et c'est pour ça, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Just, moi j'encourage aussi à ce qu'ils tentent d'autres choses, mais j'ai préféré largement à Jusson, où justement là c'était vraiment inédit de voir quelqu'un qui escalade avec une histoire forte, et là Death Note avait très très bien réussi avec Jusson. Là, mine de rien, tu me dis, ils tentent des nouvelles choses, non, ils vont juste dans ce que font beaucoup de jeux, les actions RPG, et en plus malheureusement ils se plantent royalement, donc il faut le dire quoi.
Oh, je vous trouve super dur sur le « ils se plantent royalement », ne les écoutez pas Death Note.
Mais ils vont quand même nous écouter, quoi, et après vous nous fouettez, quoi.
Non, mais c'est bien d'avoir des opinions qui divergent. C'est quand même un jeu, moi, enfin, je pense que malgré tout, on vous recommande de découvrir si vous êtes sensible à ce type d'histoire, parce qu'émotionnellement, il est très très fort.
Ouais.
Pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur PC, Xbox Series et PS5 pour 50€, donc c'est honnêtement largement accessible pour la qualité du jeu. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour ce Clash du Monde, on va tout de suite passer au calumet du pixel.
Tu peux faire tourner, s'il te plaît?
Pas de soucis, prends.
Alors, dans ce calumet du pixel, et vu que l'on a traité de deux personnages peut-être futurement iconiques dans l'industrie du jeu vidéo, je voulais qu'on revienne un peu sur tous ces duos marquants, en fait, en tout cas qui nous ont marqués, nous, dans notre expérience de joueur. On va commencer par French. Tu devais citer un ou deux duos. On va essayer de ne pas s'étaler. Ça serait lequel?
Un ou deux, j'avais préparé beaucoup plus.
C'est vrai? Écoute, parle de ce que tu as envie de parler.
Sur le conducteur, quand tu vois la liste,
parle de ce que
tu as
envie de parler. Et quand on aura marre, on s'arrêtera.
Non, mais on va se marrer. Non, j'ai mis les trucs qui me passaient au travers de la tête. Parce que, quand même, mine de rien, tu me permets cette minuscule digression. Mais un duo, c'est génial, parce que quand tu penses duo, bon, on a parlé de Banisher, forcément tu penses au duo amoureux, donc un amour quel qu'il soit entre deux personnages. Tu penses aussi à des duos familiaux, des duos fraternels, des duos amicaux, des duos de copains. Enfin, en fait, il y a plein de duos dans le jeu vidéo, et ça, c'est assez formidable. Pour te répondre, moi, j'ai un duo iconique, c'est James Sunderland et Maria, ça, c'est dans Silent Hill 2. C'est très particulier, ça parle d'amour, ça parle de fantasmes, ça parle de souffrance, c'est très spécial, mais c'est un duo du jeu vidéo d'une certaine façon. Après, moi, dans les trucs que j'aime, Joël et Ellie, The Last of Us,
bien sûr.
Voilà quoi, ça, dans les héros récents. Un truc qui te fera plaisir à toi, le Joss, tu vois, je pense à toi aussi dans les chroniques.
Tu vas pas citer mon duo, C'est mon duo. Boucara et Elisabeth.
Alors je ne cite pas. Alors je ne parlerai pas de Bioshock. Je réserve Bioshock à quelqu'un d'autre. Mais par exemple, dans les duos qui sont très forts dans le jeu vidéo depuis très longtemps, vous allez avoir dans Monkey Island, Aileen et Guybrush. C'est aussi du couple, à tendance amoureux, mais c'est aussi deux personnages qui ont une complicité folle, avec, qui ont un lien qui est bourré d'humour. Et ça, quelque part, c'est aussi ce qu'on aime dans les duos du jeu, que ce soit Mario et Luigi, que ce soit Sonic et Knuckles. C'est aussi ces liens de complicité et ces liens comiques qui sont très très forts. Quoi.
Ça me fait sourire que tu nommes Mario et Luigi, parce qu'on va vous révéler ce matin, j'ai publié un sondage sur notre Twitter, justement, sur vos duos, etc. C'est pour ça qu'il cite Mario et Luigi. Moi, volontairement, j'avais pas mis Mario et Luigi, parce que tu sais, t'as que 4 choix, quoi. Je voulais voir comment les gens allaient réagir. Et il y a des mecs écuries qui nous ont retweet derrière. Ils ont pas nommé Mario et Luigi, c'est un scandale, etc. Enfin, les gens, ils sont devenus ouf. Non, les gars, ce n'était pas un oubli volontaire. On n'a que 4 places dans les sondages. C'est pour ça qu'on a bien précisé. Dites-nous s'il y en a d'autres qui vous intéressent en commentaire, etc. Et il y a des gens qui ont été écœurés que je parle de Amicia et Hugo et que je parle justement de Red et Anté. Alors, je vais juste leur apporter une réponse. C'est juste pour mettre un peu en avant les studios français. C'était juste l'occasion de mettre en avant deux petits jeux. Donc, moi, justement, je vais parler de deux duos qui m'ont beaucoup plu. Mine de rien, il y a Amicia et Hugo.
Ouais.
Parce que moi, c'est un duo qui
même
m'a quand
si
même fait
on a adoré
pleurer.
Détester Hugo, quoi. Mais il nous a fait pleurer.
On adorait le détester, mais mine de rien, qu'est-ce qui nous a fait pleurer dans les deux jeux
ouais. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui citaient aussi dans ton sondage Kratos et Atreus. C'est marrant, c'est un super duo, mais en fait, dans la licence de God of War, tu vois, c'est pas... C'est un beau duo actuel, mais pour moi, God of War, c'est pas que Kratos et Atreus.
Ouais, mais c'est
fait.
Ouais, sur les deux derniers récents. Bon, moi, après, le problème, c'est qu'Atreus, il m'a tellement saoulé à parler pour rien dire que je t'avoue que c'est pas forcément le duo que je retiens. Mais ça, je l'avais déjà dit dans nos podcasts sur God of War, vous irez les écouter. Non, alors après, French, c'est toujours pareil. Il est poussif dans les podcasts. Il dit oui, les duos, c'est amical, c'est amoureux, c'est familial. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que des fois, c'est entre une bête, et donc un animal, et son dresseur. Alors je vais pas là pour le coup partir sur ces Pokémon, mais moi je vais vous parler de Link et Epona. Je suis désolé, dans Zelda Ocarina of Time, quand vous arrivez tout enfant et que vous découvrez Epona, que vous allez la nourrir, etc., qu'il y a quand même un lien affectif qui se crée, et que quand vous allez revenir dans Zelda un peu plus grand et que vous allez pouvoir monter à cheval avec Epona, enfin c'est quand même le réel duo dans Ocarina of Time. C'est difficile.
Dans ce cas-là, on peut parler d'un.
Bah, ça reste un duo.
Hein. On peut aussi parler d'un trio pour The Last of Us parce que c'est Joël, Ellie et Payette. Qui n'a pas pleuré quand Payette. Je ne vais pas le dire.
Bon, allez, tais-toi. Mais moi, j'aime bien ce que tu dis aussi là-dessus, Jalma, parce que moi, ça me rappelle un autre jeu qui.
Mario
qui
et Yoshi, par exemple, aussi. Hein, il faut les citer.
Mais,
hein.
Bien sûr, mais. Moi, par exemple, le héros et son cheval, bah pour moi, c'est Shadow of the Colossus, qui est un jeu vidéo que j'aime d'amour. Et voilà, et il y a le même type de relation et le même type d'intensité très forte de type conte. Et c'est marrant, vous avez beaucoup parlé de Kratos et Atreus, et c'est logique, hein, vu les personnages dans le jeu, mais moi, j'aurais plus envie de citer Kratos et Mimir. Hein. Mimir, c'est la fameuse tête coupée.
Ah ouais, c'est vrai.
J'attends la relation que Kratos et Mimir ont dans les deux God of War, par exemple. Plus que celle de Kratos et Atreus, mais ça, c'est moi. Hein.
Puis après, il y a nos deux que j'ai vu et je m'arrêterai là, mais parce que je le cite parce qu'on l'a vu sur Twitter, mais c'est vrai qu'on aurait pu le mettre. C'est sur le jeu de... j'ai plus le nom du jeu qui a été GOTY et tu joues à deux ou justement tu joues deux parents.
Ah, It Takes Two.
Mais c'est pareil, en fait, là où le duo fonctionne bien, c'est qu'en plus, vous jouez à deux. Et vous jouez chacun un personnage. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ce duo-là qui fonctionne. Et j'en cite un dernier, juste pour le plaisir, parce que celui-là, je ne l'ai pas vu, mais ça va vous faire plaisir à vous deux. C'est le duo qu'il y a dans Spider-Man 2. Entre Peter Parker et Miles Morales.
Ouais,
finalement,
ouais,
ils
fonctionnent
très bien, ce duo-là. Vous avez beaucoup aimé Spider-Man 2, moi beaucoup moins, mais ceci dit, je cite quand même ce duo-là, je savais que ça vous ferait plaisir. Quoi.
Ouais.
Et je m'arrête là parce qu'il y en a plein.
T'as pas parlé de Bioshock, Joss, hein, je crois.
Bah si, c'était sûr que j'allais parler de ce duo-là, hein, t'as commencé à en parler, moi c'est Booker et Elisabeth.
Ouais,
hein, et dès le début, en fait, dès qu'on a... Ah mais magnifique. Dès le début, dès qu'on incarne Booker, on s'en investit d'une mission de protection par rapport à Elisabeth. Et en plus, pour moi, Elisabeth, c'est l'un des personnages mythiques du jeu vidéo. C'est une histoire déchirante entre le désir de liberté d'Elisabeth, parce qu'en fait, Elisabeth, c'est une jeune femme qui a été emprisonnée à Columbia dès sa tendre enfance, en fait. Et Booker, c'est le protagoniste qui a été envoyé pour la retrouver et en fait un peu la secourir. Et du coup, il y a un vrai désir de liberté d'Elisabeth, il y a un peu d'amour, il y a beaucoup de peur aussi, parce qu'elle n'a jamais connu vraiment grand-chose. Il y a aussi beaucoup de haine, parce que Elisabeth, en fait, elle était enfermée dans l'histoire, elle est enfermée toute seule parce qu'en fait, elle a une faculté d'ouvrir des failles, en fait, des sortes de portails qui mènent vers d'autres réalités. Dans le cours de jeu, je pense qu'on se souvient tous de ce moment où elle est à Paris. C'est magnifique.
C'était mon fond d'écran d'un ordi pendant un bout de temps.
C'est mon fond d'écran aussi. C'est Elisabeth qui sort d'un bureau, moi. Mais,
c'était dans le DLC, superbe DLC d'ailleurs.
Et du coup, en fait, Elisabeth, elle est enfermée pour qu'il réalise des expériences sur elle. Donc, c'est très sombre, c'est très triste. Et du coup, elle est très isolée. Elle a comme seul ami un espèce d'oiseau mécanique qui s'appelle Songbird. Mais ce seul ami, c'est également son gardien, donc qui est également sa prison dorée, en fait. Et bien évidemment, vous vous doutez de la fin. Pour être libéré, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il va y avoir un affrontement entre Booker et Songbird. Le tiraillement de Elisabeth de perdre son ami ou de gagner sa liberté. Il y a encore d'autres subtilités dans ce gameplay, mais c'est... Pour moi, Elisabeth, c'est un personnage iconique des jeux vidéo et ce duo est un duo mythique des jeux vidéo.
Mais tu vois, moi je me posais la question à l'instant en vous écoutant, je me demande si c'est pas mieux des jeux solo en duo, c'est-à-dire quand t'as un duo dans ton histoire. Je trouve que, tu sais, quand vous visitez un jeu avec un duo, bon bah là on parlait de Banisher où justement il y a un duo, mais je trouve que tu te sens moins seul dans le jeu bizarrement. J'ai l'impression que l'histoire tu la vis avec quelqu'un d'autre qui est pour le coup un PNJ. Mais finalement, moi je me demande si avec le recul je préfère pas les jeux où ça se passe dans un duo. Et c'est là que je trouve beaucoup plus intéressant, parce que déjà, il y a cette relation forte que t'as, qui peut être, comme elle l'a dit, French, amicale, amoureuse, ou tout ce que vous voulez, mais je trouve qu'il y a moins ce sentiment de solitude dans ces jeux solo-là. Un petit aparté.
C'est vrai que quand tu prends, en comparaison, tu prends Elden Ring, Dark Souls, oui, là, c'est la solitude incarnée.
Là,
hein.
Tu te sens très seul. Tu te sens très seul.
T'as trop mal dans Elden Ring, ceci. Ouais, mais regarde ce qu'ils avaient fait dans Elden Ring, j'ai trouvé ça très malin, parce que je pense qu'ils avaient ce sentiment de solitude là. C'était les messages des joueurs que tu avais dans le jeu, et je trouvais ça hyper intéressant. Tu te sentais quand même moins seul dans le jeu, parce que ce système de communiquer avec d'autres joueurs, etc., était hyper bien pensé, quoi, tu vois. Et c'était pour casser ce sentiment de solitude. Mais c'est vrai que maintenant j'ai un peu plus de mal à retourner sur des jeux solo. Justement, tu n'as pas ton acolyte, que ça soit un animal ou autre,
top, parce que ça apporte un petit peu comme dans la vie finalement. Hein. Ça apporte une complémentarité sur plusieurs sujets. T'as l'impression de vivre l'aventure différemment quand tu as un acolyte, comme tu le dis. C'est assez intéressant. Ouais.
Bah écoutez, merci les garçons. Vous n'avez pas d'autres duos à vouloir mettre en avant? Non, on a quand même fait un petit tour, une petite synthèse assez sympa. Ah, on n'a même pas parlé d'Uncharted. C'est aussi duo.
Oui.
On n'a même pas. Bah. Bon, enfin bref, il y en a tellement de façon.
Non, puis tu sais, déjà, si on saura se faire engueuler, dire ils n'ont pas cité celui-là. Mais les gars, on ne peut pas tous citer. On est désolé, à un moment donné, il faut qu'on
coupe. Il y en a tellement.
Parce que sinon, après, c'est Earthsub. Et moi, ça me coûte cher à la fin du mois pour
non,
les
payer. Non, mais vous savez ce qu'on va faire.
Ça. Et on a parlé de ce qu'on aime aussi. Ouais. Hein, donc forcément.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt attendre que vous nous dites en commentaire quel est votre duo iconique. Et puis nous, on répondra avec plaisir pour voir peut-être si on en a manqué. Peut-être que. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère que vous avez passé un beau moment. En tout cas, nous, on a pris un réel plaisir de vous partager ça. Merci encore à Dontnod pour la clé, pour Banishers. C'est un jeu que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je tenais à le rappeler, c'était une des grosses attentes que j'avais l'année dernière. J'arrêtais pas d'en parler. Et franchement, je suis pas déçue malgré les quelques couacs. Nous, en attendant, on se retrouve pour un prochain numéro avec une nouvelle thématique forte. Vous inquiétez pas, on vous réserve quelque chose d'assez coquin. Et puis, on se dit à la prochaine.
On peut dire une dernière chose, petit pouce pour le référencement, ça nous aide beaucoup, ça coûte rien sur Spotify ou autre, ça nous aide à...
Les pouces
Les pouces, ça vous coûte 30 secondes, mais nous, c'est beaucoup déjà. Bah, déjà, ça fait plaisir de voir vos soutiens. On remercie aussi beaucoup les gens qui nous envoient beaucoup de commentaires gentils. Ça fait toujours plaisir et c'est ce qui pousse à avancer. Mais voilà, un petit pouce, ça nous aide, ça coûte rien. Voilà, on est désolé de faire un peu de com, mais si vous pouvez nous aider, bon bah.
C'est vrai que j'ai l'impression de vendre mon âme à chaque fois. Mettez les pouces.
J'avoue, on n'aime pas faire ça, mais bon, vous savez comment fonctionne le référencement. Enfin voilà, moi les chèques sont de plus en plus chers parce qu'ils me demandent sans arrêt des augmentations. C'est la folie quoi.
C'est l'inflation.
Il va y avoir des licenciements, 8% des effectifs de la guerre des gamers. Je vous annonce.
À votre bon cœur, s'il vous plaît.
Allez, merci à tous. Ciao.
Bisous, jouez bien.
Allez, bisous.